Docteur Dufour, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être là, très courageux, très généreux, je vous le disais tout à l'heure. Ce livre-là, c'est une bombe, mauvais jeu de mots peut-être, mais je l'ai ressenti et vécu de cette façon. Et titre très approprié, parce qu'en effet, on se demande comment vous avez fait pour ne pas y laisser votre âme. Et nous, on y laisse une grande part de naïveté. Et je me dis que c'est un cadeau aussi à faire à ces gens qui vivent avec ce trouble, parce qu'on en parle encore très peu. Et pourtant, vous le dites dans votre livre, à peu près une personne sur dix vivrait avec ce syndrome dans le monde. Et pourtant, c'est encore très tabou.
Oui, c'est du reste un peu le but de ce livre, c'est de dire qu'on peut souffrir de cela sans forcément être une personne faible.
Ouais.
Qu'on peut souffrir de cela après plusieurs années ou bien après un traumatisme. Peu importe, il n'y a pas de honte à cela. Par contre, c'est encore un sujet un peu tabou dans beaucoup de corporations comme les policiers, les pompiers, les urgentistes, les soldats, etc. Et c'était un peu le but de ce livre, c'est de décrire que cela peut arriver et qu'on peut, et ça c'est la bonne nouvelle, on peut s'en sortir.
Oui. Pourquoi encore si difficile à diagnostiquer?
Alors, pourquoi? Parce que d'une part, c'est un diagnostic qui est relativement récent. Ça date plus ou moins d'il y a une trentaine ou quarantaine d'années au retour des vétérans du Vietnam. Et puis, ça a été longtemps compris comme étant un trouble anxieux. Donc, on a mis ça sous l'anxiété et puis on a essayé de traiter ce trouble de cette façon-là. Puis, depuis une année, finalement, on a réalisé que c'était un trouble qui était lié au traumatisme même, au mécanisme du traumatisme, et du même coup, dans une autre classification, ça a été mis dans une autre classification. L'autre chose, c'est que c'est un sujet un peu tabou.
Ouais.
Les gens n'osent pas en parler, parce que quand on souffre de cela, on est dans une immense souffrance, mais on a une des grandes particularités de cette souffrance, c'est aussi de se renfermer complètement sur soi-même. Donc de ne pas en parler, d'avoir honte et même se dire « mais qu'est-ce qui m'arrive ? Je deviens fou, je deviens complètement quelqu'un d'asocial. On fatigue son entourage avec ses plaintes si on se plaint. Donc au bout d'un moment, la personne rentre dans un espèce de mutisme et va garder ça en elle. »
Oui, et en même temps, lorsque, comme dans votre cas, c'est lié à des horreurs que l'on vit au quotidien dans le cadre de notre travail, d'en parler à notre famille, à des amis, ben, c'est quasi impossible. On se dit, ils n'arriveront jamais à comprendre ce que je peux vivre ou ressentir.
Oui, et puis on a envie de les protéger aussi, parce que c'est évidemment quelque chose de difficile, ce que l'on vit, ou ce à quoi on est confronté. Donc on n'a pas forcément envie de tous les soirs ou bien tous les mois quand on rentre de commencer à raconter toutes les horreurs que l'on a vécues, les scènes de guerre ou de torture ou autres que l'on a vécues. Donc on garde ça pour soi-même, pour protéger aussi les autres. Mais il n'y a pas que cette raison, on a aussi cette honte peut-être de se dire « mais j'aurais pu faire mieux
».
Il y a toujours cette culpabilité qui est liée, qui devient de plus en plus importante. On se dit tout le temps, mais j'aurais dû sauver plus de monde. Même si rationnellement, on sait que c'est totalement illusoire, il y a tout de même cette grande culpabilité qui est un peu la compagne de vie de la personne qui est en train de souffrir de troubles de stress post-traumatique.
Cette souffrance, on la ressent bien à la lecture du livre, celle que vous avez côtoyée pendant les années où vous pratiquiez la médecine en zone de guerre. Mais en même temps, on ressent tout le bonheur, le plaisir que vous aviez à faire ce travail-là, l'adrénaline aussi qui était vraiment un moteur. Et cette contradiction-là est un peu fascinante. C'était quoi votre moteur pendant la peur, la souffrance, ou plutôt l'adrénaline et le plaisir qui semblent se mêler un peu?
Je crois qu'il y a, il y a beaucoup d'adrénaline, il y a beaucoup de... D'abord, on se sent très utile.
Ouais.
Parce que peut-être contrairement à ce qu'on pourrait vivre dans un hôpital, dans nos pays riches et civilisés, on se sent beaucoup plus utile sur le terrain parce qu'on est confronté justement à la souffrance humaine directe, avec des enfants qui souffrent, avec des civils qui souffrent. Et donc, il y a ce côté d'utilité qui est très importante. Il y a l'adrénaline dont vous parliez, ça c'est vrai, on est au cœur de l'actualité aussi.
Oui.
Et on a vraiment cette impression d'être très utile ou peut-être plus utile sur le terrain, comme on l'appelle, plutôt que peut-être, moi c'était à Genève, mais ça peut être à Montréal ou n'importe où ailleurs.
Oui. Oui. Il y a également l'écho de la souffrance des autres, parce que vous travaillez en équipe avec d'autres médecins, d'autres infirmières. Vous avez reconnu chez des collègues la souffrance, mais pourtant, vous ne la reconnaissiez pas toujours chez vous.
Oh non, je la reconnaissais surtout pas. J'occultais complètement cette souffrance. Vous m'auriez dit à ce moment-là, mais est-ce que vous souffrez de cela? Je vous aurais ri à la figure en disant, mais pas du tout. Je fais mon travail, j'adore ce que je fais. Et c'est vrai qu'on est toujours plus, c'est toujours plus aisé de voir la souffrance chez l'autre que chez soi-même. Et par moments, vu que je dirigeais tout de même certaines opérations importantes sur le terrain, eh bien, j'ai dû demander à des collègues d'être évacués.
Ouais.
Et je répète, à ce moment-là, le trouble de stress post-traumatique n'était pas du tout...
dans les années 80, on n'en parlait pas.
Donc, ils rentraient chez eux et je ne sais pas ce qu'ils sont devenus du reste, mais j'imagine qu'ils ont trouvé une certaine façon de pouvoir peut-être aller mieux.
Mm-hmm. On n'est jamais préparé à ça. On le vit, puis après, ben, on vit avec les douleurs que ça peut créer.
Alors oui, là, le grand reproche qu'on pourrait faire aujourd'hui, mais c'est toujours facile de reprocher après, c'est de dire il n'y a aucune formation dans la formation des gens qui partent dans l'humanitaire, mais aussi dans la police, dans les pompiers. C'est très rare que l'on commence à dire, vous savez, que vous pourriez éventuellement peut-être être confronté à des cauchemars, à des reviviscences. Et ça, c'est des signes importants qu'il faut le plus vite possible reconnaître, parce qu'on peut intervenir très rapidement.
Ouais.
Malheureusement, ça existe peu dans les formations, en tout cas à ma connaissance.
Et vous, c'est vraiment lors du retour, mais un petit peu vers la fin des missions, mais plus vers le retour, que vous avez commencé à identifier par des symptômes très, bon, des symptômes majeurs, comme des flashbacks, par exemple, de dire, OK, il y a quelque chose qui ne va pas. Ce sont des symptômes qui sont très parlants, il y en a d'autres, mais c'est à ce moment-là que vous avez eu envie de vous y intéresser davantage.
En fait, c'est au moment où on revient un peu au calme. Moi, c'était en l'occurrence en étant à Londres, en faisant des études de médecine tropicale, post-gradué, et tout d'un coup, des scènes sont remontées par rapport à du triage chirurgical que j'avais fait. Je voyais les visages, un par un, des personnes que j'avais triées, qui remontaient comme ça, comme si je les avais vues peut-être pendant une demi-heure chacun, alors que
pourtant,
je les avais vues
quelques
minutes ou quelques secondes. Et... vous ne savez pas ce qui vous arrive, vous vous demandez si vous devenez fou, si vous avez quelque chose qui tourne pas rond. Et c'est souvent après un déclenchement qui peut être une odeur, qui peut être un bruit, qui va évoquer finalement le traumatisme ou les choses que l'on a vécues. Et puis il y a ça, puis après quand on commence à détailler, il y a surtout cette espèce d'isolement dans lequel on vit. C'est une grande solitude quelque part, mais... c'est quelque chose qu'on doit aller chercher, rechercher en soi, parce que c'est pas forcément évident quand on est dans l'action de reconnaître tout cela.
Ouais. L'une des choses qui m'a marquée aussi, c'est cette absence de peur de mourir. Et pourtant, vous avez eu un fusil sur la tempe, vous avez vraiment côtoyé ces dangers-là, sans jamais nécessairement avoir peur de perdre la vie.
Mais quand on est en face d'un, quand on est dans un incident traumatique, on est complètement dans le moment présent. On sait exactement ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Donc, on n'a pas de peur. On est vraiment dans le moment présent. On n'a jamais de peur. Ça, c'est une phrase qui choque beaucoup de gens. Mais c'est vrai que toute personne qui a été agressée va vous dire que lors de l'agression, il n'y a absolument aucune peur. Les peurs, elles viennent après. Du reste, on les appelle les peurs rétrospectives, où on est en train de se dire... qu'est-ce qui aurait pu m'arriver et tout. Mais quand vous êtes face à un fusil, ou quand vous êtes face à un blessé, ou quand vous êtes face à, peu importe, à une agression, vous êtes complètement dans le moment présent et il n'y a pas de peur.
Oui, vous dites, ça passe même pas par le cerveau. On sait quoi faire et c'est
Voilà,
tout.
et ça, c'est peut-être justement toute la base du traitement qui n'est pas tellement adéquat actuellement, parce que ça passe pas par le cerveau. Quand on est agressé, on a trois possibilités automatiques qui viennent. Soit on fuit, soit on agresse, soit on fige. Et le gros problème, c'est les personnes qui figent. Alors évidemment que les professionnels, ils doivent figer. On leur apprend à figer. Et qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, toute l'énergie qui peut être dépensée dans une fuite ou dans une agression va rester complètement bloquée dans la personne. Puis ça, c'est une bombe à retardement. Et si on veut traiter et guérir de cela, j'ai bien dit guérir, parce que c'est important et non pas simplement fonctionner
survivre,
eh bien, il va falloir débloquer cette énergie au même titre que l'animal sauvage qui est en train de se faire va être dévoré par le prédateur. Si par hasard le prédateur s'en va ailleurs pour chercher une autre proie, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se relever, il va shaker et puis il va rejoindre le troupeau auquel il appartenait. Et c'est cette façon de sortir cette énergie qui est bloquée qui va réellement permettre aux personnes de pouvoir guérir du stress post-traumatique.
Donc c'est possible de guérir.
C'est non seulement possible, c'est même, moi ça fait 30 ans que j'accompagne des gens, et je me suis aussi accompagné moi-même, Mais c'est eux qui m'ont aussi appris, donc c'est une espèce d'image miroir. Où on s'accompagne soi-même en accompagnant les autres, justement en allant sortir la colère notamment qui est bloquée par rapport au fait qu'on s'est retrouvé dans une situation d'humiliation profonde ou dans l'incapacité de pouvoir agir de la meilleure des façons.
Ça m'amène à me demander si la plupart du temps, trop souvent, les traitements que l'on accorde à ce syndrome sont inadéquats, parce que souvent, on se dirige vers la thérapie cognitivo-comportementale qui serait sûrement pas l'avenue appropriée.
Écoutez, il y a une étude qui est sortie en 2015, donc c'est récent, avec une révision sur les 30 dernières années sur les vétérans du Vietnam. Il y a déjà un tiers avec lequel ça ne marche pas. Et puis les deux tiers qui subsistent, dedans, il y a 70% des gens qui continuent à souffrir des mêmes symptômes, sauf qu'ils sont amoindris. Mais par contre, le diagnostic de troubles de stress post-traumatique reste posé. Ce qui veut dire que les résultats sont en effet assez parlants, comme quoi la thérapie cognitivo-comportementale peut permettre à des personnes de mieux fonctionner, mais pas tellement de guérir.
Je pense aux familles, l'entourage qui est touché inévitablement lorsqu'un membre vit avec ce syndrome. Tout le monde le vit aussi, en l'occurrence. Est-ce que les familles pourraient être incluses dans ces traitements-là? Est-ce qu'il y a une façon de les accompagner aussi?
Votre question est très importante. L'environnement de la personne qui souffre de troubles de stress post-traumatique est capital. Certes, quand vous voyez quelqu'un qui souffre et puis qui se laisse aller complètement, certaines personnes vont plus se laver, vont plus faire leur lit ou vont complètement se tomber, disons, en abandon d'eux-mêmes. Souvent, l'environnement souffre, reproche à la personne de se laisser aller, reproche à la personne plein de choses. Je crois ce qui est important, c'est déjà de reconnaître les signes d'une personne qui commence à s'isoler, complètement à se marginaliser, y compris des siens, et puis d'essayer de trouver des personnes qui puissent aider, mais d'être plutôt dans l'écoute et surtout pas dans le conseil. Parce que le conseil, il va forcément être déplacé. On va dire, mais n'y pense plus. C'est du passé, ou bien tu sais, tu as fait le mieux que tu pouvais. Certes, il y a des gens qui sont décédés, mais regarde ce que tu as fait, c'est génial. Et ça, c'est la chose qui est peut-être ressentie le plus péniblement par la personne qui en souffre. Parce que ça la replonge dans la culpabilité. Et puis, on est dans l'irrationnel avec une personne qui souffre. Et quand on se veut rationnel ou rassurant,
on communique pas de la bonne façon.
On provoque presque le contraire comme effet.
Docteur Dufour, ça a été quoi pour vous les premiers signaux que ça allait mieux?
Ben, ça a été, je veux dire, une fois, j'ai crié ma colère, mais seul, j'étais dans une forêt. Et là, je me suis senti vraiment beaucoup plus libéré. J'avais plus ce poids dans la poitrine, dans le ventre, après l'avoir fait. Bien entendu que ce n'est pas en l'ayant fait une fois que ça allait mieux, mais c'est petit à petit aussi reconnecter avec le monde. Parce que quand on souffre de troubles de stress post-traumatique, on est très cynique. On trouve que le monde ne va pas, on est très négatif quelque part, on ne voit pas beaucoup d'avenir à ce que l'on fait. Et c'est petit à petit reprendre confiance en la vie, reprendre confiance, reprendre contact aussi avec les autres. Alors vous me direz, vous étiez médecin, donc vous étiez en contact. Mais les autres, quand je parle des autres, c'est surtout les proches. C'est surtout ses enfants, c'est aussi sa compagne ou sa femme. C'est petit à petit remettre un peu de couleur dans sa vie alors qu'elle est dans les gris et blancs pendant longtemps.
Vous étiez en contact avec les autres, mais pas toujours avec vous non plus.
C'est souvent les cordonniers les plus mal chaussés, c'est ce qu'on dit. Et c'est vrai que j'accompagnais et j'accompagne toujours des patients en leur disant « Mais pourquoi est-ce que vous êtes stressé? Depuis quand est-ce que vous êtes malade? À quoi ça, quand ça remonte ?» Souvent, ils viennent avec des événements qui leur sont arrivés, dans lesquels ils n'ont pas vécu la tristesse ou la colère. Alors je leur disais, ça serait bien de vivre cette tristesse, de vivre cette colère, donc de l'exprimer, non pas aux autres, mais pour soi-même. Et en fait, c'est en les accompagnant à faire cela, parce qu'ils trouvaient ça difficile, que moi-même, j'ai commencé à le faire. Puis je me suis rendu compte que finalement, ce conseil que je donnais de façon très docte à mes patients et mes patients, finalement, pouvait me faire du bien aussi à moi.
Après toutes ces années, vous dites qu'il ne reste plus de colère, mais de la tristesse. Est-ce que ça va s'éteindre un jour, ça, ou ça sera toujours là?
Bon, moi, j'ai eu toujours plus de difficultés à exprimer de la tristesse que de la colère, mais elle sort régulièrement. Est-ce que ça va s'éteindre? Quand je regarde le monde tel qu'il fonctionne, et en écrivant ce livre qui relate des événements qui remontent à il y a 30 ans, 40 ans bientôt... Ouais. Je me rends compte que l'Afghanistan existe toujours, que l'Iran, l'Irak, le conflit en Iran, Irak existe, que le Liban, la Syrie, c'est toujours la même chose. Et c'est un peu désespérant. On a l'impression qu'on tourne en rond et qu'on n'apprend pas grand-chose finalement de ce qui s'est passé. Et dans tout ça, il y a toujours des civils et des enfants. Et moi, les enfants, c'est toujours ce qui me peine le plus, qui souffrent alors qu'ils n'ont rien demandé à personne.
On souhaite que j'ai failli laisser mon âme, c'est publié aux éditions de l'Homme, accompagne ces gens, ces familles et peut-être sensibilise certaines organisations à ce syndrome. Docteur Daniel Dufour, merci beaucoup.
Merci à vous.